Chapitre 4. Quelques idées sur les préjugés nationaux. Melmont voyait avec un mélange de chagrin et d'inquiétude la répugnance qu'Indiana montrait pour son départ de Londres. Dans la dernière assemblée, elle n'avait pas daigné l'honorer d'un seul regard, tandis qu'elle redoublait d'affabilité pour tous les autres. Sa conduite semblait annoncer qu'elle ne voulait point perdre avec un homme qu'elle était assurée d'avoir toujours auprès d'elle les derniers moments où elle pouvait jouir de l'admiration générale. Il soupira en songeant à Eugénia. Camilla oubliait un moment ses chagrins en pensant qu'elle allait serrer dans ses bras sa sœur chérie. Comme elle achevait de s'habiller, une domestique de la maison frappa à sa porte et lui demanda si Miss Lindemère était chez elle. Elle répondit qu'elle ne l'avait point vue. Un moment après, Miss Margland vint lui faire la même question. « Savez-vous, dit-elle, ce qu'est devenue Miss Lindemère? Je n'imagine pas où elle peut être. » Camilla sortit pour la chercher avec les autres, mais ce fut inutilement. Enfin, après beaucoup de peines, d'examens et de questions, on parvint à faire avouer à une des domestiques qu'elle l'avait aidée durant la nuit à sortir de la maison et qu'elle était montée avec M. MacDercy dans une chaise qui l'attendait. Melmont fut frappé comme d'un coup de foudre. Une action aussi imprévue, au moment où on l'attendait à Clèves pour consommer l'engagement qu'elle avait volontairement contracté, lui parut d'abord incroyable. Mais lorsque Miss Margland s'écria « Oh, poursuivez-le, monsieur Melmont, montez à cheval et courez vite en Écosse !» Il lui répondit gravement, ou plutôt sèchement, « J'en serais bien fâché. Non, madame, celui qui a obtenu l'honneur de sa préférence est sans doute le seul qui peut la rendre heureuse, et je ne suis point du tout avide d'une main qu'on a tendue volontairement à un autre. » Il retourna paisiblement chez lui, beaucoup plus indigné qu'affligé de la brusque rupture d'une alliance qui, après lui avoir présenté d'abord l'espoir d'une félicité parfaite, menaçait déjà de se terminer par des regrets réciproques. Camilla déplorait non seulement l'imprudence et les dangers de sa cousine, mais le nouveau choc qui allait frapper son oncle. Sa sensibilité fixa, pour le moment, presque toute son attention sur le désespoir de Miss Margland. La fuite de sa pupille lui faisait perdre la récompense de 13 années de soins et de services très opposés à ses inclinations. Et elle n'avait pas mérité cette trahison de sa pupille, car, quoique incapable de lui donner des instructions fort utiles, elle avait au moins veillé sur sa conduite avec la plus grande exactitude. Elle ne se sentait point le courage de retourner à Clèves, privée d'une des deux jeunes personnes qu'on lui avait confiées, et Camilla était trop sensible à sa peine pour l'exiger. On envoya donc à Clèves, par un exprès, les détails de cette triste aventure, et Miss Margland y joignit une longue apologie de sa conduite. Elle finissait par demander si elle devait quitter Londres ou y rester jusqu'à ce qu'on eût des nouvelles d'Indiana. Un instant après le départ du messager, on remit à Camilla un paquet qui aurait dû arriver 2 jours plus tôt par les relais. Lavinia s'était servie de ce moyen pour informer plus promptement sa sœur que M. Clyke était venu lui-même à Essrington présenter ses comptes et réclamer son paiement. M. Tyrold avait regardé toute cette histoire comme une imposture jusqu'au moment où Clyke lui avait présenté les billets de sa fille. Lavinia fut alors appelée et forcée de convenir qu'elle avait connaissance de cette transaction. Elle demandait à sa sœur qu'elle omettait des détails qui l'affligeraient inutilement. M. Tyrold avait terminé l'entrevue en promettant de payer, dès qu'il le pourrait, les sommes que M. Clyke avait déjà déboursées et dont il présenterait les reçus. Mais il avait refusé nettement toute espèce de gratification pour un prêt usuraire et fait clandestinement à une fille mineure. Clyke, irrité, lui avait dit que Sir Hugh n'avait usé plus honorablement avec un de ses amis. Mais voyant toutes ces réclamations inutiles, et sachant qu'il n'avait rien à espérer de la loi relativement aux intérêts, il avait menacé de faire un mémoire de ses soins et démarches pour assembler et acquitter les différents mémoires. Il ajouta même, en sortant de la maison, qu'il prendrait immédiatement un writ s'il n'était pas payé dès le lendemain de tout ce qu'il pouvait réclamer légalement, à moins qu'on ne lui donnât un nouveau titre valable et une promesse de tenir toutes les clauses de ses premiers arrangements. M. Tyrold, qui avait malheureusement prêté à son frère jusqu'à sa dernière guinée pour acquitter les dettes de Clermont, ne savait trop à qui il pouvait avoir recours. Il demandait toutefois un état exact des dettes que cet homme avait été chargé de rembourser. Lavinia terminait sa lettre en témoignant à sa sœur les regrets qu'elle avait d'être forcée de lui annoncer cette affreuse nouvelle. Il serait impossible de décrire la situation de Camilla. L'angoisse de sa douleur ne lui avait permis de lire la lettre de Lavinia que très imparfaitement, et elle n'avait pas le courage d'en recommencer la lecture. La lettre était tombée à terre, Camilla ne voyait ni ne pensait. Son imagination était un chaos dont elle ne pouvait rien débrouiller. Ce fut dans ce moment que le Lord Holernay lui fit demander un quart d'heure de conférence. Elle fit de la tête un signe de refus. Le domestique, étonné, sortit et revint un instant après lui dire que le Lord était très fâché de l'importuner, mais qu'il avait à lui communiquer une affaire de conséquence relativement à M. MacDercy. Elle répondit d'une voix très basse qu'elle ne pouvait recevoir personne. Elle était encore dans cet état de stupeur lorsqu'on lui apporta un billet de Lady Isabella Airby, qui lui demandait un moment de conversation de la part du Lord Holernay. Camilla fut frappée de ce nom. Elle se souvint qu'Edgar lui avait parlé avec admiration de Lady Isabella Airby. Elle consentit à la recevoir à l'instant même. La situation de Camilla parut naturelle à Milady. Elle l'attribuait à la fuite de sa cousine, tandis que Camilla, rappelée par sa vue à des souvenirs moins amers, repassait dans son imagination les conseils et les vertus de son cher Edgar. Lady Isabella, après lui avoir fait poliment et succinctement des excuses de son importunité, lui dit que le Lord Holernay avait imaginé qu'elle pourrait, plus facilement que lui, réussir à se faire admettre. « Personne, ajouta-t-elle, ne sera de son opinion, mais il n'est pas aisé de lui refuser ce qu'il désire. Je suis donc venue et vous présumez sans doute le motif de ma visite. » Le Lord Holernay est très affligé de la démarche très imprudente que son parent s'est permise. Il en a été informé par hasard en passant chez lui où l'on venait d'apprendre sa fuite. Il n'a pas voulu différer un seul instant de voir quelqu'un des parents de la jeune personne et de faire offre de ses services pour lui assurer un établissement convenable. Tel est l'objet de l'importunité dont vous avez été obsédé. Le Lord Holernay désirait que Sir Hugh Tyrold ne reçût la nouvelle de cette aventure qu'avec les détails relatifs à MacDercy qui peuvent la rendre moins affligeante. Camilla, se rappelant que le Lord Holernay était le parent de MacDercy, commença à écouter avec un peu plus d'attention et à témoigner sa reconnaissance de la démarche du Lord et de la complaisance de celle qui avait la bonté de le représenter. « À présent que vous savez de quoi il s'agit, « voulez-vous, dit Lady Isabella, permettre que le Lord Holernay vienne lui-même? Il vous instruira beaucoup mieux que je ne pourrai le faire de tout ce que vous avez intérêt de savoir. » Camilla y consentit sans trop savoir ce qu'elle disait, et Lady Isabella envoya son domestique avertir le Lord, qui attendait chez elle la permission de se présenter. Il ne tarda pas à paraître. Après avoir remercié Camilla de lui avoir accordé une audience et Lady Isabella de l'avoir obtenue, « J'étais, dit-il, très empressé d'avoir l'honneur de conférer avec Miss Camilla Tyrold dans l'espoir de prévenir, au moins, après l'imprudente expédition de cette nuit, les craintes qu'on pourrait avoir sur le sort futur de Miss Lynmare. Quelque irrégulière que soit la manière dont cette alliance a été formée, j'espère qu'elle ne paraîtra point aussi fâcheuse que le sont d'ordinaire ces sortes de mariages. La fortune actuelle de MacDercy est sans doute au-dessous des justes prétentions de Miss Lynmare, mais il a des espérances considérables et très fondées. Son épouse sera honorablement accueillie de toute la famille, et comme le chef, j'en donnerai l'exemple. Il est honnête, généreux, et il a le cœur excellent. Son jugement n'est pas encore bien mûr, mais malgré son étourderie, il ne manque point de bon sens. » Le Lord rendit un compte détaillé de la situation présente de son parent et de ses espérances futures. Il ajouta qu'il se chargeait de faire assurer à son épouse un douaire convenable par un cousin riche et très âgé qui avait pris depuis longtemps l'engagement de lui laisser sa fortune. Il pria Camilla de faire part de tous ces détails à Sir Hugh le plus promptement possible et l'autorisa à parler en son nom. « Il est toujours bon, continua-t-il, d'informer promptement de tout ce qui peut pallier ces sortes d'aventures clandestines qui semblent inculper au moins une des deux parties. » Mais il faut surtout user de vitesse lorsque l'expédition est conduite par un Irlandais. car parmi les Anglais en général, il suffit qu'un homme soit né en Irlande pour être regardé comme un aventurier et un coureur de dot. Cependant, si vous habitiez ce pays, vous seriez convaincu que les choses y sont très balancées et que les élégants nécessiteux qui y amènent de riches épouses ne sont pas plus nombreux que les particuliers opulents qui épousent des étrangères sans fortune. Il ajouta qu'il avait été instruit par Miss Lindmer dans une des assemblées de Mistress Burlington que Miss Camilla résidait pour le moment à Grosvenor Square. Ayant appris qu'elle était la nièce de Sir Hugh Tyrold, il s'était informé de son aimable parente qu'il avait rencontrée à Tunbridge. Camilla le remercia de son souvenir et Lady Isabella observa, avec l'air de l'approbation, qu'elle n'avait jamais entendu dire qu'on eût vu Mistress Tyrold dans les assemblées de cette maison. Elle répondit sans commentaire qu'elle n'y avait jamais paru. Mais un regard dont elle ne put pas se défendre en dit plus qu'elle n'aurait voulu sur l'opinion qu'elle avait de ces assemblées et de leur fréquence. « Votre aimable et jeune amie, dit le Lord Holernay, a été lancée dans le monde un peu trop jeune pour prévoir la satiété qu'elle se prépare en suivant avec trop d'ardeur et de persévérance le tourbillon des plaisirs. Mais je connais si bien la pureté de son âme et ses qualités estimables que je ne doute point que son erreur ne produise elle-même le remède et qu'elle ne revienne promptement aux jouissances littéraires et aux relations choisies qu'elle a passagèrement abandonnées pour des plaisirs plus bruyants. « Cette espérance, dit Lady Isabella sans lever les yeux, me fait grand plaisir. Elle est charmante et il est difficile de la voir sans s'intéresser à elle. » J'aimerais mieux cependant d'attendre l'époque que vous annoncez pour lui confier une jeune personne, à moins qu'elle n'eût la rare prudence de Miss Tyrold. Camilla désavoua, en rougissant pour son amie et pour elle-même, toute prétention à l'éloge de Lady Isabella, et le Lord Holernay lui répondit d'un air chagrin « Vous connaissez ma manière de penser sur Mistress Burlington, mais je n'en donne pas moins ma respectueuse approbation » au courage avec lequel ma chère Lady Isabella sait s'élever au-dessus de sa réserve et de sa timidité naturelle lorsqu'elle croit qu'un avis ou une observation peut produire un bien ou prévenir un mal. » En parlant ainsi, il fixa Camilla, qui détourna promptement sa vue sur Lady Isabella et vit dans ses regards un tendre intérêt qui confirmait l'interprétation du Lord et une sorte de confusion modeste de la réflexion qui lui était échappée. Personnellement reconnaissante, mais très affligée relativement à Mistress Burlington, Camilla sentit les larmes rouler dans ses yeux. Elle les retint en s'efforçant de cacher son émotion, et le Lord Holernay, prenant un ton moins grave, la pria d'accorder à son parent sa protection auprès de Sir Hugh. « Nous devons, lui dit-il, nous regarder aujourd'hui, en quelque façon, comme alliés, et je ne vous dissimulerai point que MacDercy ne soit un peu sujet aux étourderies et aux rodomontades que vos Anglais considèrent comme les principaux traits de notre caractère national. Mais j'ose vous assurer qu'il a aussi de la générosité, du courage, un cœur bienveillant et... » Le Lord fut interrompu par Mistress Mitin, qui entra brusquement dans la chambre en s'écriant « Eh bon Dieu, Miss, quelle affreuse aventure! J'en ai presque perdu la tête et tout le canton de Winchester en jette les hauts cris. Vous ne pouvez pas vous figurer ce vacarme et comme tout le monde est en l'air. » Ici finit le court intervalle où l'horreur de Camilla avait été suspendue. Mistress Mitin ou M. Clyke lui semblait à peu près la même chose. Elle ne pouvait pas cependant concevoir que l'enlèvement de sa cousine se fût si promptement répandu jusque dans le voisinage de ses parents. « Quand, s'écria-t-elle, avez-vous donc été à Winchester et comment avez-vous eu connaissance de cette affaire ?»« Connaissance, mais ma chère, c'est là que tout s'est passé. J'en arrive à l'instant avec M. Denel qui a eu la complaisance de m'amener à Londres pour une petite affaire que j'ai ici. » Et je retournerai avec lui à la fin de la semaine, car la pauvre petite Mistress Listine ne saura à quel saint se vouer dans mon absence. Elle ne sait pas seulement distinguer sa main gauche de la droite, et dans le fait, ce n'est qu'une enfant. Car qu'est-ce que 15 ans? Et elle n'a pas davantage. Nous parlerons de tout cela dans un autre moment, lui dit Camilla, honteuse de sa verbeuse familiarité, et croyant qu'elle laisserait achever au Lord ce qu'il voulait dire. Mais Mistress, choquée, s'écria « Il est incroyable que vous soyez ici à causer tranquillement, comme si tout allait le mieux du monde, tandis que tous les autres sont dans une agitation qui n'a jamais eu d'exemple. Il faut dire aussi qu'on n'a jamais vu d'homme plus aimé et plus respecté dans son canton, et je suis véritablement fâchée que M. Clark ait porté si loin les choses. Mais je vous ai averti qu'il fallait prendre garde de le pousser à bout. Car, quoi qu'il soit le meilleur homme du monde, il n'y a rien qu'il ne soit capable de faire plutôt que de perdre son argent. « Au nom de Dieu !» dit Camilla effrayée. « Qu'est-ce que... » « Eh quoi, miss, ne savez-vous donc pas que votre papa a été emprisonné à Winchester pour la dette en question ?» Frappée comme d'un coup de foudre, Camilla tomba sur le plancher sans connaissance. Le lord Olerney sortit de la chambre fort affligé et dit à une domestique qu'on avait besoin de son secours. Lady Isabella resta et fit tous ses efforts pour appeler Camilla à la vie. Elle revint, mais pour se livrer à l'excès de son désespoir. Elle était à chaque instant saisie de convulsions, elle poussait des cris aigus et faisait des contorsions effrayantes. Elle tenait des discours incohérents qui semblaient menacer d'une aliénation totale. Lady Isabella, la voyant environnée de ses amis et n'étant point assez liée avec elle pour lui faire des représentations, sortit fort émue de ce douloureux spectacle. Camilla ne la vit point sortir et ne se rappelait pas même sa visite. Elle appliquait de temps en temps sa main sur son front, elle appelait la mort et les châtiments éternels pour la punir d'un crime dont elle avait horreur. Mais dès que ses crises s'affaiblirent avec ses forces, elle voulut aller à l'instant se jeter aux pieds de son père. Elle courut joindre Miss Marland et la supplia de l'accompagner tout de suite à Winchester. Mais Miss Marland, l'accablant de reproches, sans égard pour sa situation, refusa de quitter Londres avant d'avoir reçu des nouvelles de Sir Hugh. Camilla la supplia de lui prêter sa voiture, mais elle s'en excusa sur ce qu'elle attendait à tout moment une réponse et que, quand elle arriverait, il lui faudrait peut-être partir à l'instant. L'infortunée Camilla descendit et pria le portier de la maison d'aller sur le champ lui chercher une chaise ou toute autre voiture qui pût la conduire à Winchester. Lady Isabella, retenue par l'absence de son domestique, qui avait cru avoir le temps de faire une commission, attendait dans une salle où elle s'entretenait avec le lord Olerney de l'événement dont il venait d'être témoin. Elle ouvrit la porte, mais Camilla passa sans l'apercevoir. Le lord la suivit et lui demanda pourquoi, dans une pareille circonstance, elle n'empruntait pas la voiture de Mistress Burlington. Lady Isabella encouragea cette proposition en observant le danger d'aller seule dans une voiture de louange. Elle avait l'esprit trop peu présent pour songer à les remercier ou même pour les comprendre. Mais le nom de Mistress Burlington la frappa et elle alla trouver cette dame. Le lord Olerney, vivement touché de sa situation, se fit annoncer par un domestique et entra avec elle. Lady Isabella, ne voulant point quitter la maison sans savoir le succès de la demande, attendit dans la salle le retour du lord. Ce fut beaucoup moins Camilla que lui qui demanda la voiture. Lorsqu'elle voulut parler, la voix lui manqua, mais sa figure et son maintien peignaient assez, sans le secours des mots, l'excès de son désespoir. La sensibilité de Mistress Burlington fut vivement émue. Elle répondit au lord que sa voiture et sa personne étaient au service de son ami, mais la première émotion étant passée, elle se souvint qu'elle avait un engagement inviolable qu'elle ne voulut point expliquer davantage, mais qui lui fit monter le rouge au visage lorsqu'elle annonça sa rétractation. Elle l'offrit cependant pour le lendemain. Mais Camilla, à qui les minutes paraissaient des siècles, redescendit précipitamment et pria le premier domestique qu'elle rencontra de courir lui chercher une voiture, quelle qu'elle pût être. Lady Isabella, allant au-devant d'elle, la pria de lui dire si elle avait quelque commission à lui donner qu'elle pût faire, si elle pouvait lui rendre quelque service. Camilla la remercia sans savoir ce qu'elle disait, et le lord Olerney, qui descendait, lui fit les mêmes offres. Mais elle passa sans y faire la moindre attention. Ils étaient l'un et l'autre vivement affectés de voir une jeune personne se mettre en route seule et dans l'état où elle était, pour aller visiter son père au fond d'une prison. Dans un moment où sa famille allait contracter une alliance avec celle de cet infortuné, le lord se crut presque obligé d'en prendre soin. « Cependant, dit-il à Lady Isabella, quoique je sois assez vieux pour être son grand-père, On pourrait, si je la conduisais moi-même, me soupçonner d'un sentiment d'admiration personnelle dont j'aime à croire que je ne suis plus susceptible. » Lady Isabella, occupée des mêmes réflexions, sentit ce qu'il désirait d'elle et réfléchit un instant sur la possibilité de le satisfaire. Elle avait des engagements, mais elle sentit qu'en pareille occasion, il y avait plus de mérite à y manquer qu'à les tenir. Elle envoya demander à Camilla un instant d'entretien. Mrs. Mitton était à lui raconter de nouveaux détails qu'elle écoutait en silence. Elle se hâta de descendre et Lady Isabella lui offrit de la conduire elle-même à Winchester. Un service si peu attendu, un bienfait si inespéré, rappela ses esprits égarés par la frayeur et excita si vivement sa reconnaissance que le lord l'empêcha difficilement de se jeter aux pieds de sa généreuse amie et il eut de la peine à se retenir lui-même de lui rendre cet hommage. Il sentit d'autant mieux le mérite de cette offre qu'il venait d'éprouver, avec un peu de confusion, le refus de Mistress Bervington. Il n'y avait point de temps à perdre. Lady Isabella retourna chez elle, donna quelques ordres et revint promptement dans une chaise attelée de 4 chevaux qui les éloignèrent rapidement de Londres.